dépit de tous les rêves d'immortalité promus par l'idéologie transhumaniste, la mort demeure un passage obligé. Dans la foi, ce mot passage est lourd de sens. C'est la porte par laquelle Jésus est passé avant nous pour nous faire entrer dans la vie éternelle après avoir vécu la mort. Pas toujours simple à comprendre, mais on va tenter d'en savoir plus aujourd'hui dans cette émission.
Psy et Spi avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière émission sur le thème « Vivre avec les défunts » avec le père Jean-François Noël, prêtre du diocèse d'Aix-en-Provence et psychanalyste. Bonjour père Jean-François.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut dire que la mort sera le jour de notre rencontre avec Dieu ? Est-ce que c'est un résumé qui vous convient ?
Non.
Ok. Alors, je vous écoute.
On a commencé à le rencontrer avant et toutes ces premières rencontres, évidemment, vont s'accomplir et s'ouvrir définitivement dans la mort. Mais en fait, c'est pas la première fois qu'on va le rencontrer. On le rencontrait ou soit directement, soit indirectement à travers les autres.
Je pense que beaucoup de nos contemporains seraient prêts à vous dire que c'est la première fois où ils le rencontreront quand même.
Oui, mais ils vont s'apercevoir en le rencontrant qu'ils l'ont déjà, ils ont déjà été visités par lui de nombreuses fois sans qu'ils s'en rendent compte.
C'est ce que disait Einstein, le hasard et le mode de transport qu'emploie Dieu
voilà,
pour voyager
exemple,
incognito.
Ouais, par exemple, voilà. Donc cette forme-là, ouais, c'est très bien.
Alors, est-ce que vous pouvez nous définir justement ce qu'est la vie éternelle et surtout, quels pourraient être, selon vous, les points communs entre la vie terrestre ou du moins les éléments communs entre cette vie terrestre et cette vie dans l'au-delà?
Ben, tout ce qui dans cette vie terrestre se révèle dans la beauté, la douceur, enfin ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, la communion, l'harmonie, la beauté, la beauté de la nature, etc. Pourquoi ne sont-ils pas des signes de ce que nous avons à en vivre de façon plus définitive? Et puis alors c'est intéressant parce que ce que disent ceux qui sont, on va en parler, hein, ceux qui disent revenir de la mort, enfin bon, on va en parler,
oui.
Parlent de lumière. Tous parlent de lumière et de lumière apaisante et amoureuse, dont ils font partie, qui les écrase pas. C'est ce que raconte d'ailleurs saint Paul sur le chemin de Damas. Une lumière telle qu'elle l'a à la fois terrassée, rendue aveugle et en même temps qu'il l'a habitée. Voilà. Et donc, la vie éternelle, c'est ce côté-là, de dévoilement de ce que nous avons vu comme une esquisse à travers la beauté du monde, la beauté de l'amour vécu, la beauté de la relation, de la communion. Et tout ça a été des bouts de crayon, des bouts de brouillon qui nous disaient à l'avance ce à quoi nous sommes destinés.
Est-ce que ce sera aussi la fin de la solitude ?
Bah évidemment, oui.
Qui est un peu la condition humaine.
Bah oui. Parce que non seulement d'ailleurs nous retrouverons nos proches, mais sans la barrière des générations, sans la barrière des histoires.
On sera jeune ou vieux ? C'est ça que.
Je sais pas. on sera un âge qui dit notre accomplissement. Je ne sais pas à quel moment on est accompli à 30, 40, 50, 60, je ne sais pas. Peut-être que c'est une fausse question, mais on se reconnaîtra. On se perd pas dans le tout. On n'est pas dilué dans un grand tout, d'après ce que dit la tradition. Mais on est au top de son accomplissement.
Alors justement, tout à l'heure, vous évoquiez les expériences de mort imminente. Alors bon, vous m'avez sorti un autre terme, des termes que j'avais jamais entendus. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Alors EMP, donc expérience de mort provisoire, VSCD, vécu subjectif de proximité du défunt, ou encore TCH, transcommunication hypnotique. Ouais, vous m'avez perdu là. J'avoue que vous m'avez un peu perdu.
j'ai suivi ce qu'a écrit Tabassé. Alors autant la première. Elle préfère, d'ailleurs pas que Lita Basset, mais d'autres aussi, l'expérience de mort provisoire à ces expériences dont a parlé Dr Moore dans un célèbre livre qui s'appelle La vie après la mort.
C'est ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, c'est pareil.
De mort imminente, voilà, c'est ça. Alors en fait, on s'aperçoit qu'en fait, ils ne sont pas complètement morts et que la conscience a continué à être vivante et qu'elle rapporte à peu près toujours la même expérience.
Sur plusieurs personnes.
Ah mais c'est très impressionnant le nombre de gens qui racontent, donc des gens dans le coma ou des gens qui ont un arrêt cérébral et qui de fait semblent prouver, alors je suis plus prudent parce que Lita Basset est plus affirmative que moi, qu'il y a une conscience extra-neuronale, ça veut dire en fond une conscience qui qui n'est pas liée à notre corps, et que cette conscience, voilà, peut-être que c'est ça l'âme, notre conscience continue à recevoir et à éprouver au-delà de mort de notre cerveau ou de notre propre corps. Alors d'ailleurs, ils rapportent tous, alors c'est autant des enfants, des vieillards, des à peu près la même expérience du tunnel, de l'immensité de l'amour, de l'intensité de la lumière, de la paix, comme s'ils étaient arrivés chez eux, enfin arrivés dans leur patrie, à la patrie de l'homme, à la patrie de l'humanité. Et que on leur fait comprendre que c'est trop tôt et qu'il faut donc qu'ils repartent et qu'ils se réincorporent. Mais bon, ils reviennent, parce que certains ont même des expériences dans la salle de chirurgie où leur corps a été déclaré comme momentanément mort et qui se voit en expérience de excorporation, je sais pas comment on dit, voilà. Moi j'en sais rien, j'ai jamais vécu ça. C'est vrai que les témoignages vont dans le même sens et surtout
est-ce que c'est compatible avec la tradition chrétienne, ces expériences-là?
Pas incompatible.
Ni compatible ni incompatible, c'est...
C'est pas incompatible. Je sais pas, Lazare, je sais pas ce qu'il a vécu pendant les 3 jours de mort. Qu'est-ce qu'il a vécu? Bon, on ne saura rien parce que tout rien n'est dit. Mais enfin, il a vécu quelque chose puisqu'il est revenu. Donc il y a une des traditions de retour. Bon, après les vécus subjectifs de proximité du défunt, ça on en a parlé. Ça c'est plus fréquent. C'est cette fameuse ce long retour du défunt dans une relation vivante avec ses proches. Ça peut être dans un rêve, ça peut être dans une pensée, dans une expérience de présence. Et puis à TCA, je ne sais pas trop ce que c'est. Il faut voir le bouquin de Ita Basset, Transcommunication hypnotique. J'avoue que là, j'ai eu du mal à suivre le texte. Donc j'en parlerai pas. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, 3 termes voilà, qui semblent désigner qu'il y a une proximité, une présence insistante, mais non obligatoire, des défunts qui sont à la porte de notre vécu, voilà, à la porte de nos sens.
Et quand on peut traverser des épreuves, certaines personnes justement peuvent penser à leurs défunts en leur disant « sois avec moi », ça ce sont des choses,
oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ça je pense. Mais en fait, je pense qu'elle met le doigt sur une chose qui est réelle, c'est que c'est nous qui avons plus peur qu'eux. Voilà. Et que c'est notre étroitesse et notre peur qui nous empêchent de nous ouvrir paisiblement à cette présence. Et à l'inverse...
Parce qu'on a peur de la mort?
Oui, on a peur de notre propre mort, oui. On a eu peur de la leur. Hein.
On est peut-être pas...
On n'a pas assez confiance. Parce que ceux qui sont venus de l'expérience de mort provisoire disent toujours qu'ils n'ont plus peur, qu'ils savent où ils vont aller.
Ces expériences de mort imminente ou de mort provisoire, est-ce que ce sont des expériences plutôt spirituelles, psychologiques, selon vous?
Je ne sais pas comment les situer. C'est pas psychologique. C'est subjectif, mais c'est pas psychologique. C'est plus spirituel que psychologique, ouais. Mais quand on la vit, c'est très corporel, par contre. On la ressent. On le ressent très fort. Mais c'est pas... je sais pas, c'est difficile de la... Ceux qui l'ont vécu se sont pas posé la question si c'était psychologique, ce serait limite délire. Le ressenti... Bobin a écrit des très belles choses, qu'elle cite d'ailleurs, sur la proximité de sa femme, je crois, ou c'est sa femme, quand il va sur le tombeau et qu'il lui parle et qu'elle lui inspire des mots incroyables, d'une douceur et d'une intensité qu'il traduit lui-même. C'est ça le vécu subjectif de proximité du défunt, c'est que il est habité, il est visité. Voilà.
On le sent avec nous tous les jours.
Mais non, parce que parfois ça dure pas, c'est des moments. C'est pas une présence permanente, c'est des rencontres, c'est des visitations. C'est pas, elle vit pas, elle vit pas avec son fils minute après minute. Elle, de temps en temps, il y a des rencontres, comme Christian Bobin le racontait de son épouse. Je crois que c'est son épouse qu'il a perdu. Oui.
Donc l'humain confronté à la finitude, est-ce que selon vous justement il doit un peu se réconcilier avec la mort à l'heure actuelle?
Oui, parce que une fois cette expérience vécue, les choses traversées sur Terre paraissent plus relatives puisqu'elles vont pas s'achever, elles vont s'ouvrir et se déployer dans une autre dimension. que donc ça nous permet de n'aie pas peur, hein, ne crains pas, dira sans arrêt le Christ quand il apparaît, même quand il apparaît par exemple sur la fameuse lac de Tibériade où il apparaît en marchant, ne craignez pas, voilà, comme si le surgissement de la vie vivante d'abord nous effraie parce qu'elle perturbe notre propre vision des choses humaines et qu'au fond peut-être que c'est à, comme je disais, à portée de cœur ou à portée d'âme que cette proximité de l'autre monde.
Est-ce que la foi nous aide sur ce chemin de
oui,
la mort?
Pas que la foi. Enfin, la foi en la promesse divine, la foi en la promesse de notre propre vie qui est un bien précieux pour Dieu et qui ne peut pas tomber dans l'oubli. Voilà. Que je suis quelqu'un de précieux, même si je ne vaux rien. Et que ce que le peu que je suis fait l'objet d'un souci et d'une bienveillance divine. C'est ça, au fond, la foi.
Pour terminer sur ce thème, quels sont, selon vous, les points de vigilance à avoir pour accompagner un chemin de deuil ou pour vivre un chemin de deuil?
De ne pas tomber dans ce que les psys appellent la jouissance du tragique, c'est-à-dire je jouis d'être déprimé ou... Bon, je jouis, c'est pas volontaire, hein,
Parce qu'on s'occupe de moi ou...
Oui, donc de rentrer un peu dans une position de victime, voilà, il y a un choix de la vie au cœur même du travail de deuil. Je veux être vivante. Je veux être vivant. Enfin, je pense à Tabasset. Je veux être vivante. Décider que dans l'épreuve, je veux pas me laisser faire par la mort, par le tentateur qui veut me faire mourir, et que je vaux mieux que ça, et que je veux être vivante. Alors vivant, blessé, mais vivant quand même. Et c'est ça la vigilance qu'on doit avoir dans le travail de deuil, c'est de rester vivant, même si c'est très peu, quoi. Mais le choix de la vie doit sans arrêt se faire. Alors parfois il faut demander de l'aide, d'un accompagnement, d'un soutien, d'une amitié, pour que le choix de la vie soit plus fort que la mort.
Sans arrêt, rechoisir la vie.
Rechoisir la vie.
Sur un chemin de deuil, ça, on terminera sur ces quelques mots. Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour vos éclairages à la fois en tant que prêtre et psychanalyste. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions PsyEspi sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Place à un nouveau thème mercredi prochain. On vous donne rendez-vous à 11h. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur RCF.
Psy Espy avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.